Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, bienvenue pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et vous le savez, désormais, Good Luxe Paris, c'est tous les jours de la semaine, en direct de 13h à 15h. Je vous retrouve en solo. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Emmanuel, vous allez être content. Cette semaine, une émission spéciale saké. En effet, l'alcool de riz japonais part à la conquête des Français. La capitale a désormais son salon du saké, sa maison du saké. Et un des plus illustres maîtres de chais champenois vient même d'élaborer le premier saké au goût français. Nous en parlerons donc dans un instant avec Régis Camus, créateur de Heaven Saké, Kaoru Yida, ambassadrice de la maison d'Asai, et Yulin Lee, fondateur de la maison du saké. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et Emmanuel, c'est la tradition dans Good Luxe. On commence avec votre table de la semaine.
Et ça tombe bien puisqu'on va parler saké, donc la boisson culte japonaise, et on va évoquer une chaîne de restaurants mythique.
Une chaîne
à Tokyo. Oui, une chaîne de restaurants, mais plutôt une chaîne haut de gamme. Ça s'appelle Ippudo. Ippudo, on va commencer par le commencement. Il y a environ 40 ans, du côté des années 80, je ne vais pas vous donner son nom, mais un japonais qui était un chef cuisinier spécialiste du ramen, on va y revenir, les ramen c'est les nouilles au bouillon japonaises, commence sa carrière au Japon. Il gagne plein de casseroles crochets, c'est-à-dire des concours cathodiques. Il devient une véritable star du ramen à travers tout l'archipel et très rapidement il va faire fructifier son talent en ouvrant plein d'enseignes à travers le Japon. Et rapidement, ça monte en puissance. Et depuis quelques années, depuis 15-20 ans, il a exporté, j'allais dire, le goût du ramen à travers le monde. D'abord du côté asiatique, puis à New York, au printemps dernier à Londres, et enfin à Paris. C'est vraiment une chaîne cultissime. Les foodistas parisiennes l'attendent depuis je ne sais combien de temps. La dernière fois qu'on a vu une sorte de food popote de la même manière, c'était pour l'ouverture, la réouverture du Burger King de la gare Saint-Lazare. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez...
Ah, mais c'est un autre niveau, j'espère.
C'est un autre niveau. D'accord. Mais vous vous retrouvez rue Grégoire de Tours, sur une adresse et sur une enseigne qui n'a pas été tellement communiquée. Il y a une queue qui est aussi long que les fameuses nouilles.
Ah, oh, super.
Alors, il faut un peu patienter.
On attend un peu pour aller chez
Et lorsqu'on pénètre dans l'adresse, alors on est dans un décor qui va jouer un petit peu sur les codes, bien sûr, zen japonais, mais en même temps avec des codes un peu pop, un peu manga.
Est-ce que ça vaut le coup d'attendre?
Et ça vaut quand même le coup. D'abord parce que vous allez découvrir l'un des plats cultes japonais. Jusqu'ici, on le découvrait surtout dans le quartier du Little Tokyo parisien, c'est-à-dire du côté de la rue Sainte-Anne. Là, on le découvre un petit peu du côté de la rive gauche, ça change. Alors, ce sont des ramen, j'allais dire, un peu aseptisés. C'est pas méchant quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est-à-dire qu'il l'a fait au goût du monde. Généralement, le ramen, il y a quand même un peu de gras. Là, c'est très light. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ramen? Le ramen, c'est d'abord un tonkotsu. Le tonkotsu, c'est du porc. C'est ce qui va faire le goût, l'écume de ce ramen. C'est travaillé à partir des os de cochon. Et ça donne de l'écume, c'est très bon.
Hein. D'accord, d'accord.
Après,
d'accord.
Vous rajoutez, c'est un bouillon laiteux, le tonkotsu. Vous rajoutez ensuite le chachu, ça c'est le porc braisé. Vous rajoutez quelques champignons pour la croque.
Il vaut mieux pas savoir parfois ce qu'il y a dedans.
Si, si, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, vous rajoutez les fameuses nouilles très élastiques. C'est un plat qu'on sert généralement bouillant. Alors, il y a plusieurs variantes chez Ippudo, une douzaine. Faut prendre le plus classique. Et là, ça va, vraiment, c'est un voyage au bout de la gorge. Ça se slurpe, c'est une machine à vapeur, votre gorge soudain. C'est assez étonnant. Alors, on voit qu'on est quand même pas véritablement chez les purs tokyoïdes. Parce que quand vous vous retrouvez dans une adresse à ramen, à Tokyo, ou même du côté de la rue Sainte-Anne, franchement, on a l'impression de se retrouver dans une gare avec les locomotives à vapeur. Ça slurpe de partout. Là, c'est beaucoup plus sage.
Ippudo, vraiment rue Grégoire de Tours, dans le 6e arrondissement de Paris.
C'est plutôt sympathique, vraiment. Et ça coûte environ 20-25 euros, avec un repas vraiment, j'allais dire, conséquent, digeste, une sorte de,
allez,
de radiateur
pour
l'hiver.
Emmanuel. Donc c'est Ippudo, rue Grégoire de Tours. Allez, on a compris. Donc l'hôtel de la semaine, c'est l'hôtel Monsieur 62, rue des Mathurins, dans le 8e arrondissement de Paris. Je ne vais pas m'attarder autant que sur Ippudo, mais c'est, un bel hôtel. 4 étoiles du côté des quartiers des théâtres. Et donc on retrouve toute cette ambiance théâtre, des lobbies, gros canapés rouges, gros velours rouges. Et puis dans les chambres, on a toute cette thématique qui est développée. Puisque vous avez la suite Sacha Guitry, la chambre Yvonne Printemps, vous avez le thème Paradis, coup de théâtre, avant scène, votre ville, première loge, etc., etc. Le décorateur, c'est Vincent Bastier.
Corbeil, poulailler.
Voilà, des chambres, des suites royales, une suite quadruple même, tout ça à partir de 200 euros. La petite salle d'exercice en bas, les petits massages en plus, si l'on souhaite. Je vous ai donné l'adresse, 62 rue des Mathurins.
Tout près du théâtre des Mathurins.
Et ben voilà, et l'hôtel Monsieur. Voilà pour cette ambiance théâtre. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, web de luxe.
Sandy Prenois.
Bonjour.
Bonjour. Alors sur le web aussi, ça bouge du côté justement des hôtels.
Des hôtels avec Relais et Châteaux qui vient de lancer son magazine digital, il s'appelle Instant. C'est un joli magazine online avec de vraies belles plumes. 4 rubriques, une rubrique voyage évidemment dans laquelle on se laisse bercer, envie d'ailleurs, on découvre des vieilles fermes du 18e siècle, voilà. Une autre rubrique test-off avec des idées recettes, des interviews de cuisiniers, de sommeliers, de légumivores. Une autre rubrique, les engagements, là c'est le coin pêche nature, sauvegarde, comment ça s'appelle, enfin
préservation
mais non, c'est pas ça, ça va pas, c'est pas le mot, avec les abeilles, on les protège, protection des abeilles. Vous voyez, ça m'enthousiasme ce genre de sujet. Et puis le coin concierge qui là peut être très utile puisque c'est pour les enfants, donc tous les endroits de Relais et Châteaux qui nous permettent d'envoyer les enfants dans les ranges, dans les fermes, etc.
Relais et Châteaux n'acceptent pas les enfants.
Exactement.
C'est pas vrai.
Si, bien sûr, mais si. c'est dans l'idée, on est sur...
Donc
voilà, mais là vous avez toutes les infos. Voilà.
Mais vous direz dans la partie le concierge.
Oh
bon, et ben tout ça c'est sur relaischateau.com/magazine/fr. C'est bien de pas accepter tout le temps les enfants.
Alors non, c'est ça. Oh là là, boum.
Et puisqu'on parle conciergerie, justement une nouvelle initiative, la conciergerie cadeau.
Oui, en fait, qui dépend du site marchand Arty Dandy, en fait via le site et l'application, on va pouvoir se faire livrer des cadeaux à qui on veut pour les événements qu'on veut. Donc en fait, c'est tout simple. On va sur le site homme, femme, anniversaire, que sais-je. Là, on a un listing assez large de cadeaux et le tour est joué. Alors, il y a évidemment plein d'autres possibilités. On peut créer des wishlists, on va pouvoir faire personnaliser un cadeau, on va pouvoir faire participer les copains pour un vote commun si jamais on a des envies communes de cadeaux. Voilà, enfin bref, c'est bien fichu et c'est tout nouveau. Ça s'appelle la conciergerie cadeau et tout ça, c'est grâce à Arty Dandy qui existe aussi en boutique physique dans le 6e arrondissement, 1 rue de Fürstenberg.
Et puis ça bouge énormément du côté de la mode et des grands créateurs de mode. Et ça vient des États-Unis et ça vient notamment de Tommy Hilfiger.
Alors oui, pas que, parce qu'effectivement Tommy Hilfiger se met à la fast fashion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, jusqu'à présent, les défilés, on avait les vêtements en boutique 6 mois après.
Là, c'est terminé. On avait une saison d'avance.
Là, enfin, c'est pas encore tout à fait terminé. Les couturiers commencent à s'y mettre et vont prévoir Tommy Hilfiger en l'occurrence sur le défilé printemps 2017 qui aura lieu fin d'année. Il va proposer cette collection directement à la vente après le défilé. Ils peuvent pas le faire tous maintenant parce qu'il y a tout un planning à mettre en place, etc. C'est compliqué. Donc ça c'est la nouveauté, c'est ce dont tout le monde parle dans la mode en ce moment.
Mais parce que ça rompt complètement le calendrier de la mode.
Complètement. Ah ben c'est complètement nouveau et puis parce que les gens veulent du tout et tout de suite maintenant. Alors après évidemment côté digital, il y a eu beaucoup d'autres choses. On en avait parlé de Tommy Hilfiger parce que fin d'année dernière, il avait proposé, vous le savez, le masque de réalité augmentée pour que les clients puissent suivre le défilé. Il va le refaire. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça qui sont annoncées en matière de digital. Une collaboration aussi avec, c'est une première avec Gigi Hadid qui a plus de 13 millions d'abonnés sur Instagram. C'est vous dire à quel point aussi le digital interpelle les créateurs. Donc il va faire une création avec elle qui sortira en septembre. Et voilà, il y a beaucoup de choses en fait.
Finalement,
si vous voulez.
Le temps de la mode n'est plus le temps du web, le temps d'internet. Et du coup, les créateurs se sont rendus compte. Et derrière, effectivement, Tommy Hilfiger, on a Burberry, on en a bien d'autres comme ça.
C'est ça.
Et on
ça
sent
fait débat,
que
hein,
ça
parce qu'il y a beaucoup de maisons de mode qui veulent pas jouer ce jeu-là.
Oui, évidemment.
Donc ça, faudra peut-être d'ailleurs voir au prochain Fashion Week si on fait pas une émission, parce que vraiment, ça va rompre tout le calendrier de la mode jusqu'à infuser et changer carrément toutes les magazines de mode qui, eux, justement, annonçaient 6 mois à l'avance qu'on avait eu en collection aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une vertu à ces magazines-là, puisqu'on pourra cliquer
on pourra
et acheter tout de suite la mode.
Suite.
Un vrai débat.
Voilà, à suivre. Donc, merci infiniment, Sandy Prenois. Allez, très rapidement, on n'a plus du tout le temps. Emmanuel, avec votre Ipudo, on redonne l'adresse. C'est un rue Grégoire de Tours dans le 6e arrondissement.
C'est pas grave.
Vous avez pris tout le
week-end prochain.
Non, on va passer quand même tout de suite à l'objet de la semaine.
Eh ben voilà.
Et l'objet de la semaine, un petit objet pour nous, les femmes, les jeunes filles, que sais-je. La maison Guerlain. La maison Guerlain,
oui.
Vous savez, la. Travailler sur la petite robe noire. Elle a lancé son parfum, la petite robe noire, un énorme carton en parfumerie. Ils se sont dit, la bonne idée, c'est que c'est une image, c'est que c'est un petit cœur renversé, là, qu'on retrouve. Et ben ça, on va le décliner à l'envie. Donc, non seulement, ils ont lancé une ligne d'accessoires avec les trucs pour les iPhones, des coques d'iPhone, des petits sacs, machin. Et puis surtout, ils l'ont décliné dans la ligne maquillage. Et alors ça, c'est assez sympa parce que du coup, ils ont vraiment travaillé avec Olivier Chaud de Maison qui travaille le maquillage de la maison. Donc on retrouve ce petit cœur renversé sur les sticks à lèvres, sur les vernis à ongles, etc. Mais aussi, parce que c'est un grand amateur de couleurs, sur les teintes. Et donc, ils déclinent. Ils ont réfléchi énormément, là encore, le côté laqué brillant. Et la dernière info hyper importante, c'est que désormais, ces sticks à lèvres et ces vernis ont ce petit relent de parfum de la petite Rome noire.
C'est ça, c'est un floral stick à lèvres fruité. Parfumé.
Et ça, ça change aussi. Et c'est pas écœurant, c'est assez bien fait. Ça,
tu me dis, vous allez tester, vous allez goûter.
Ben bien sûr, j'ai goûté. Enfin voilà, tout ça, c'est la
je
ligne
aussi, à l'occasion.
Make-up petite robe noire de Guerlain et ça arrive en ce moment en magasin. Ouais, je sais, vous, votre truc, c'est plutôt le saké. On en parle tout de suite.
Ah,
mais
oui.
C'est pas tout à fait le même parfum. Ça se travaille différemment et ça se déguste avec modération. C'est tout de suite dans Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des Good Luxe à consommer avec modération cette semaine quand le saké part à la conquête de la France. Nous recevons ici même les maîtres S-Saké de la capitale. Kaoru Ida, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ambassadrice de la maison d'Asa, c'est l'une des plus grandes maisons de saké japonaises. Yulin Lee, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes restaurateur mais aussi fondateur de la maison du saké dans le deuxième arrondissement à Paris qui a ouvert il y a à peine quelques mois. Régis Camus, bonjour.
Bonjour.
Normalement, vous êtes plutôt du côté de Reims, maître de chef champenois, mais voilà, vous venez de créer Even Saké, le premier saké japonais ou français ou franco-japonais. Vous nous raconterez ça dans un instant. On va peut-être commencer par le commencement, Emmanuel, et rappeler, c'est tout bête, hein, mais qu'est-ce que le saké, Kaoru Ida?
Alors, saké, donc, c'est une boisson à base de riz et issue de, entièrement de la fermentation. Contrairement à ce qu'on a l'idée reçue, entre guillemets, par les Français, on pense qu'en fait, le saké qui est servi à la fin de repas, c'est un saké très fort, toujours à batterie, mais saké, je précise, saké japonais, c'est quelque chose un peu comme le vin, c'est-à-dire on peut consommer avant et pendant et après le repas et n'est pas forcément dégusté comme un digestif.
Ça, c'est bon de le préciser, parce que même si ça commence à rentrer dans les mœurs, on sent qu'il y a encore quand même beaucoup de pédagogie à faire auprès des Français. Bien sûr, c'est un alcool, donc on rappelle que c'est à consommer avec modération. Pourquoi aujourd'hui le saké investit la capitale française? Uligny, vous allez nous dire, et pourquoi il intéresse tant les Français? Justement parce qu'on est amateur de vin et qu'on peut donc être intéressé par la subtilité de cet alcool?
Je pense que déjà, c'est vrai que le Français a déjà le palais préparé, le palais est beaucoup plus éduqué que les autres pays.
Et donc, merci de le dire. Moi, à titre personnel, j'aime l'entendre.
Et donc, vous avez déjà prête à déguster et apprécier le saké, qui est aussi subtil que le vin. Et il y a aussi, il y a certaines profondeurs, il y a certains arômes qui est vraiment appréciable comme le vin. Et donc à déguster aussi, comme je vous ai dit, pendant le repas. Donc on y pense que le saké à consommer avec la cuisine japonaise, non. Et ça peut être consommé avec la cuisine française, avec le foie gras, avec le fromage.
Ah ben, on verra tous les accords mets et vins tout à l'heure, parce qu'effectivement, là, il y a des choses à dire.
Donc, justement, alors, vous allez donner un peu la définition, très rapide, très sommaire, mais c'est le but, du saké. Mais au Japon, justement, d'abord, son histoire, ça remonte à quand? L'histoire du saké au Japon, et puis surtout, les Japonais, comment ils le consomment eux-mêmes? Parce que finalement, c'est très peu de choses. Est-ce qu'eux le consomment dans des bars? Est-ce qu'ils le consomment à l'apéritif, en fin de repas? Ou justement, est-ce qu'ils accompagnent des repas plus ou moins festifs?
Déjà, pour l'histoire, il y a 2000 ans d'histoire.
Voilà, hein, c'était donc, ça, c'est rare. On a compris que c'était vraiment un alcool culte chose, et inscrit dans le patrimoine.
Voilà, le patrimoine. Et nous, maintenant, on consomme, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui pourrait accompagner toute langue de repas. Donc, on peut commencer par le saké et on finit par le saké.
Et est-ce qu'il y a des terroirs du saké au Japon? Est-ce qu'il y a des régions comme un peu en France? On a la Champagne, bien évidemment, la Bourgogne, Bordeaux, un peu toute la France. Est-ce qu'il y a vraiment des lieux dans l'archipel qui sont des lieux forts, des épicentres de cette culture saké?
Alors, justement, quand on compare le vin, c'est ce qui manque, c'est un peu le concept de terroir. Et millésime, c'est le deux points qui n'existait pas en fait pour le saké. Déjà, l'ingrédient, le riz, il est quelque chose, on peut dire, c'est le produit sec. Donc, une fois qu'on récolte, on peut transporter un peu très loin de là où on produit le saké. Donc il n'y a pas tellement de lien entre le sol, la terre et le produit final. Et donc à ce moment, mais maintenant il y a beaucoup de producteurs de saké qui utilisent le riz, qui sont des riz régionales. Donc voilà, c'est essayer d'un peu montrer le côté terroir en montrant, voilà, on fabrique le saké avec le riz de notre région.
Mm-hmm. Très bien, maître.
Yulini, ouais. Vous êtes l'un des rares saké samouraïs français. Vous avez presque un pied en France, un pied au Japon. Vous avez étudié tout ça de près. À la maison du saké, je crois qu'il y a plus d'un millier de références, c'est ça, différentes?
On a à peu près 6000 bouteilles, on a une centaine de références. Nous mettons, pour revenir un peu à ce que disait Kaolu, en avant les régions. Il n'y a pas un terroir de la terre, comme on peut avoir sur le vin, mais un peu plus léger, il y a un terroir de l'eau. Comme pour faire du saké, l'ingrédient principal, c'est
un
le
peu
riz.
Comme le whisky écossais, où l'eau est très importante, qui va peut-être faire parfois, pas simplement ça, mais la différence d'un whisky à l'autre.
Tout à fait.
Là, il y a un terroir.
Comme le whisky japonais est maintenant devenu assez populaire et connu, grâce à son eau, le saké, c'est pareil. On a au Japon une eau incroyable. Quand on va visiter des maisons de saké, en général, ils font d'abord déguster l'eau pour fabriquer le saké. Et au fur et à mesure, on ressent quand même une différence entre les différentes régions, entre l'eau du sud du Japon ou du nord du Japon.
Parce que la difficulté, quand on regarde rapidement et qu'on n'est pas du tout connaisseur, c'est qu'il n'y a pas non plus la robe, comme le vin, qui est un élément très important chez nous pour la dégustation du vin en France, que tout est assez clair en général. Comment on fait? Est-ce que ça se déguste de la même manière?
Alors, il n'y a pas la robe, mais on peut avoir le nez, par contre. Normalement, traditionnellement, on le boit dans des petites coupelles, mais de plus en plus, on le déguste dans des verres à vin, dans des verres. Et là, on... Par exemple, des sakés du sud du Japon ou des sakés de Kyoto n'ont pas forcément quelques spécificités différentes.
Ouais. Et qu'est-ce qui change alors justement dans la dégustation? Est-ce que vous parliez du nez? Est-ce qu'on a un petit peu le même vocabulaire que pour le vin ou pas du tout?
Est-ce qu'il y a aussi un prisme un peu, par exemple, pour parler de l'évocation des single malt écossais, où on va jouer sur le tourbé, le fumé. Est-ce qu'il y a un prisme comme ça, aromatique, gustatif, qui existe et qui peut définir le saké?
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un vocabulaire du saké. Il y a des sakés plus classiques, où on va vraiment sentir le riz. D'autres, justement, plus délicats, et là, l'eau va être mis en avant. D'autres qui vont être un peu fruités. Souvent, un nez de melon, un nez de fruits exotiques. Non, il y a tout un vocabulaire du saké. Ouais.
Alors, on va revenir à vos maisons, hein, la maison d'Assai, la maison du saké. Mais on continue notre petit tour de table. Et comme on a la chance d'avoir un maître de chais champenois, le maître de chais de la maison Piper Hetzig. Alors, je ne fais pas le CV de Régis Camus, parce que c'est impressionnant, les médailles, les récompenses, la reconnaissance méritée à mon sens. On va raconter l'histoire de ce saké franco-japonais, Ivan Saké, très bientôt. Mais comme vous avez eu la chance, vous, d'aller dans l'archipel, et c'est vous qui allez nous raconter un petit peu comment on élabore un saké. Alors, je ne parle pas d'Ivan Saké, mais le saké, ça s'élabore comment? On a parlé du riz, la fermentation. C'est quoi les grandes étapes?
Alors, pour moi, une étape primordiale, c'est déjà la matière première. Donc, la matière première, c'est le riz. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est d'aller chercher la matière au cœur du grain de riz. C'est-à-dire que ce grain de riz, il est poli à 50%, à 39%, à 23%.
Le petit grain, là?
Le petit grain, oui. C'est impressionnant. Donc on va aller vraiment chercher au cœur du grain de riz, comme nous on peut faire en Champagne ou dans d'autres vins, dans d'autres régions, d'aller chercher au cœur de la baie, au cœur du grain de raisin, le meilleur.
Et alors quand vous parlez du polissage de ce grain de riz, plus il est poli, plus on est dans la quintessence de ce riz ou...
Tout à fait, tout à fait. Et on parlait de l'eau tout à l'heure, la qualité de l'eau, la température de l'eau. Ce que j'étais impressionné, c'est le temps du lavage du riz, des sacs de riz. Et j'ai voulu le faire, et là, je me suis rendu compte que j'étais chronométré à la seconde, avec une eau qui devait faire 6 ou 7 degrés. C'est impressionnant, les Japonais qui peuvent faire ça. Et moi, j'étais impressionné parce que dans notre métier d'œnologue, de chef de cave, on doit avoir de la rigueur, de la précision. Et là, j'ai découvert, bon, moi qui adorais le saké, j'ai découvert la précision qu'il pouvait y avoir dans l'élaboration. Ensuite, la fermentation, tout est... Alors, c'est très traditionnel, mais avec beaucoup de précision.
Mais quand on dit fermentation, c'est-à-dire c'est sur combien de temps? Parce qu'on sait qu'il faut, par exemple, pour l'assemblage des champagnes, on sait qu'il faut de longues années, que ça se repose, etc. Pour le saké, combien de temps il faut?
Alors, la fermentation, elle dure comme en champagne, hein, ça dure une dizaine de jours. Après, il y a les systèmes de filtration, centrifugation. Et après, sur Even Sake, donc là, l'idée que j'ai apportée, un peu une idée champenoise, c'est la notion d'assemblage.
Oh, on va y revenir, vous inquiétez pas. Si on essaye de faire un comparatif, parce que comme on a notre culture un peu vigneronne en France, on a des millésimes, on a le temps qui compte, avec des bonnes ou des mauvaises années, selon la récolte, selon la météo. Qu'est-ce qui va faire la différence d'un sac et l'autre? Est-ce que l'âge, le vieillissement, son importance ou pas du tout?
Déjà, pour le saké, n'est pas destiné à la garde.
D'accord,
donc
c'est pas...
voilà, je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a deux notions qui n'existaient pas pour le saké, c'est le terroir et le millésime. Donc il y en a quelques-uns exceptions, donc le saké vieilli, en général c'est plus de 3 ans, mais sinon ce qui différencie entre les sakés, c'est donc matière première, c'est-à-dire le riz. Il y a des variétés de riz spécifiques pour le saké qui n'est pas tout à fait la même chose que le riz de table. Donc il y a à peu près comme le cépage, hein, donc il y en a à peu près centaines, dont dizaines sont plus utilisées, et donc le choix est à chaque maison. Après donc toutes les subtilités de fabrication différencient le de la saveur au goût final. Par exemple, la durée de fermentation chez nous, ça dure 35 jours à très basse température, ce qui permet d'avoir l'arôme, le saveur beaucoup plus délicat et fin. Et il y en a certains qui préfèrent d'aller plus court. Et aussi, il y a toute étape avant la fermentation, il y a le processus, ce qu'on appelle sacalification, puisque dans le grain de riz, il n'y a pas de sucre. Donc, on ne peut pas faire le fermenter directement. Donc, il y a une étape supplémentaire qui était ajoutée juste avant la fermentation. C'est le travail de champignons qui s'appelle aspergillosolisés et qui sont saupoudrés sur le riz cuit à la vapeur.
Apporter la fermentation.
Voilà, donc ce champignon transforme donc l'amidon en glucose. Et cette étape est très délicate, qui dure à peu près 3 jours. Hein, mais cette étape est primordiale justement pour déterminer la qualité du sucre, si on peut dire.
Juline.
Moi, j'aimerais savoir à quelle température ça se déguste, parce que comme ça, on a l'impression, on continue hein, finalement à comparer les alcools. Est-ce que aussi c'est un alcool qui s'aiguise à température ambiante, au frais, chaud, tiède, ou est-ce que finalement, là aussi, il y a toute la palette, notamment quand on va à la maison du saké?
Ce qui est intéressant justement dans le saké, c'est qu'on peut le déguster à différentes températures. Quand on visite en général les maisons, ils aiment bien qu'on le goûte à température ambiante. Quand je le sers dans des restaurants, on le sert souvent frais, pour pas prendre trop le dessus sur les plats. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le boire chaud.
Chaud.
Et faire des accords nez et saké avec une boisson chaude, c'est très rare. Il y a le thé, on peut faire
un peu. Notamment à un restaurant.
Mais on a
Yamcha, qui travaille beaucoup sur les accords thé et plats, et ça marche très bien.
Et le saké, c'est un des rares alcools où justement on peut faire ces accords.
Boire chaud.
Alors,
chaud. Manger.
Vous me raconterez ces accords mets et vins tout à l'heure, parce qu'on va y venir bien sûr, parce que vous avez aussi des restaurants, donc, et vous travaillez ça aussi avec des tapas japonaises. Vous me redirez le nom tout à l'heure, parce que je vais vous laisser prononcer tout ça. Yulini, on fait d'abord une petite pause sur BFM Business et on va continuer comme ça à rentrer dans les secrets du saké, et toujours en consommant avec modération. On se retrouve dans un instant pour Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe au saké cette semaine. Bien sûr, on consomme avec modération, mais on vous fait découvrir tout l'univers de cet alcool de riz japonais qui désormais envahit la France et la capitale. Nous sommes toujours en compagnie de Kaoru Ida, ambassadrice de la maison japonaise d'Asa, de Yulini, fondateur notamment de la maison du saké, mais pas que, et de Régis Camus, maître de chai champenois, créateur de Even Saké. Alors ça, c'est la dernière petite nouveauté sur la planète saké française. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de ce que vous avez voulu faire. L'idée, c'est avec votre savoir-faire de champenois, d'illustre maître de chai champenois, Régis Camus, vous avez voulu créer un saké franco-japonais.
Oui. et que ce soit un saké unique. Alors, en Champagne, 1 plus 1 ne fait pas 2. 1 plus 1, par l'assemblage, ça fait plutôt 2,5-3. Et l'idée de dire, s'il existe quelques types de saké, justement par le polissage du riz, est-ce que l'assemblage de plusieurs sakés pourrait créer un nouveau saké?
Et voilà, ça, c'est l'idée. Nouveau, ça, voilà, ça n'existait pas dans la culture du saké, il n'y a pas d'assemblage.
Non. Kaoru?
Très peu. Alors c'est vraiment la vertu, et c'est là où vous intervenez, vous les maîtres de chais. Tout le génie d'une écriture du champagne et d'une grande maison de champagne, c'est justement d'avoir une signature en assemblant, avec voilà. Des cépages, avec des
alors, notre idée, on en a parlé auparavant, c'est vrai que, surtout en France, on imagine que le saké est un alcool à... voire à 35-40 degrés, ce qui n'est pas le cas.
C'est quel ordre, en fait?
C'est 16 degrés.
16 degrés.
16 degrés. Donc, ça se boit très, très bien. Et moi...
Mais avec modération. Pardonnez-moi.
Merci. Et lors de mes voyages pour le Champagne Piper Etsic au Japon, j'avais l'occasion de déguster des sakés, et j'ai vu qu'il y avait une multitude de sakés. Et à partir de là, je me suis fait une philosophie, en me disant, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un saké qui soit en même temps viril et féminin? Voilà. Et travailler sur le nez, on en a parlé tout à l'heure, sur la bouche. Et j'ai imaginé un saké avec un côté floral, plutôt printanier. J'ai dû penser aux cerisiers en fleurs, au Japon, au mois de mai.
Mais quel saké au pluriel, du coup, vous avez pris? Comment vous les avez choisis?
Alors, nous avons travaillé avec la maison d'Asai. Et j'ai passé presque une semaine chez Dasai. Comme je vous le disais, j'ai participé à quelques travaux. J'avais vraiment besoin de me mettre dans le costume, dans la peau. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai échange. Et le peuple japonais, le peuple français sont deux peuples, deux civilisations qui s'entendent très très bien. Ça marche très bien avec le champagne et ça va marcher très très bien avec le saké. Voilà, et au fur et à mesure, l'équipe de Dasai a compris ce que je voulais faire et nous l'avons fait ensemble.
Et donc dans ce flacon d'Ivan Saké, le premier, hein, c'est tout neuf, ça va être lancé dans les jours qui viennent. Il y a combien de sakés différents qui composent cette création?
Il y a trois types de sakés.
Trois types de sakés.
J'en dirai pas plus.
Ah bah non, on sait
la réponse. Simplement, et on rentrera pas non plus dans les détails, il y a écrit sur ce flacon qui est superbe. Hein, à titre personnel, je trouve le flacon superbe. Et qui casse un peu ça. Les codes d'ailleurs du flacon rituel et classique japonais. C'est normal, c'est un flacon, j'allais dire, ouvert au goût du monde. Mais il y a écrit Junmai Daiginjo. Ça veut dire quoi, Junmai Daiginjo?
Alors là, on est sur une sélection de trois sakés, polis à 50, 39 et 23. Mais encore une fois, je ne vous donnerai pas la composition.
Ah d'accord, et donc c'est juste pour expliquer, parce qu'il y en aura d'autres. Ça c'est la première bouteille, et c'est parce qu'il y en aura d'autres, et donc d'autres titres. Vous ne pouvez rien dire. D'accord, c'est une histoire qui commence.
Ça s'appelle voilà.
L'aventure vient de démarrer, donc voilà. Il y en aura probablement d'autres.
Et en tout cas, ce qui est intéressant pour finir sur le flacon aussi, un flacon très, très noir, très sombre, justement, c'est pour préserver aussi.
Non, pas particulièrement, mais il y a beaucoup d'élégance.
Voilà.
Voilà. Et le flacon doit refléter la qualité du saké. Et voilà, c'est délicat, c'est raffiné.
Pour l'avoir dégusté, très sincèrement, c'est effectivement une belle balance entre ce que vous vouliez, c'est-à-dire un certain raffinement, et en même temps, du corps, la charpente, c'est ce qu'on attend aussi d'un alcool, même avec modération. Et c'est vrai que c'est peut-être une bonne manière aussi d'arriver par le biais français au saké, peut-être parfois de rentrer dans ce monde du saké. Surtout, c'est ce que j'appelle moi les terroirs modernes. C'est-à-dire que effectivement, c'est des terroirs où deux cultures vont s'assembler. Ici, la culture champenoise française et la culture japonaise, et ça parle au monde entier. Je trouve que l'aventure est très légitime et très très intéressante sur Ivan Saké. Yulin Li,
vous qui êtes donc à la maison du saké, qui êtes sacré saké samouraï, hein, c'est comme ça qu'on dit. Aussi, donc grand expert saké. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, bouchez-vous les oreilles, finalement, Régis Camus. J'ai quand même envie de dire, est-ce que c'est pas un petit peu, je fais exprès de la provocation, les grands savoir-faire français en matière de vin, en matière de champagne, qui arrivent, qui disent, regardez, on va vous montrer ce qu'on peut faire, bien sûr, avec votre magnifique saké, mais regardez ce qu'on peut aussi faire. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner?
Bouchez-vous les oreilles.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité. Donc, c'est très bien comme projet. Ça permet de faire connaître le saké.
Et d'ouvrir les champs.
Et d'ouvrir les champs, puis surtout de casser l'image de l'alcool très fort. Le saké, c'est vraiment un alcool de repas qui est très doux. Et dans la maison du saké, nous, ce qu'on va mettre en valeur, c'est vraiment les différents sakés qui existent.
Combien déjà au compteur ?
On a 100 références, on a 6000 bouteilles. On va encore augmenter. Il y a des sakés pétillants, des sakés...
Ah oui, c'est ça. Alors justement, par exemple, les champenois, il y a des sakés pétillants.
Il y a des sakés pétillants avec des fermentations naturelles, non naturelles. Il y a des sakés non filtrés qui vont avoir une couleur un peu blanche ou qui gardent un peu la couleur du riz. Il va y avoir des sakés vieillis, ça existe, hein, qui vont avoir un goût très très prononcé. Il va y avoir... Voilà, une diversité assez large de saké, moi c'est ce que je vais mettre en avant.
Alors depuis tout à l'heure, on dit que ça se consomme comme du vin, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, tout au long du repas, même si c'est avec modération. Vous, vous proposez alors les tapas japonaises, comme ça s'appelle comment ?
Donc le principe du restaurant, c'est un izakaya.
Izakaya.
Un izakaya, c'est pas la boisson qui est au service du plat, mais c'est le plat qui est au service de la boisson. Donc il n'y a pas de plat principal, il n'y a pas de plat individuel. C'est que des plats à partager.
Otsumami, c'est comme ça.
C'est des otsumami, exactement. Ouais.
Des petites tapas.
C'est des petites tapas japonaises, des otsumami japonais. Tout est mélangé. Il peut avoir du poisson, de la viande. Il peut avoir des plats très japonais comme des plats influencés européens. Et le but, c'est d'accompagner le saké.
Et justement, à la maison du saké, vous l'avez dit, hein, plusieurs références, 6000 bouteilles. Mais on n'est pas simplement dans, j'allais dire, d'une manière de caviste. C'est aussi un lieu de vie, un lieu qui rend hommage avec un izakaya. Je crois qu'il y a aussi un restaurant qui, là, justement, va sortir un petit peu des manières tapas pour rentrer vraiment dans le dialogue entre les sakés et le restaurant. C'est comment quand on pousse le 11 de la rue Tickton ? Ça vient d'ouvrir.
On est vers il y a exactement... une semaine.
Vous êtes toujours en avant-première. Le saké va sortir dans quelques jours, vous avez ouvert il y a une semaine.
Et on essaye d'attirer le plus grand nombre de personnes. Donc les gens ne sont pas forcément obligés de manger. On a un comptoir où les gens peuvent déguster, goûter un petit verre de saké. On fait des bento, les gens peuvent prendre un porté. Et à l'occasion, on essaye quand même de leur faire goûter des choses. On a le soir des apéros saké avec des plats japonais, mais ça peut être aussi du fromage. Le saké se marie très très bien avec le fromage.
Le fromage, des fromages français.
Il y a un salon de fromage d'ailleurs à Paris qui s'appelle Isada, qui est dans le quartier de Little Tokyo, donc dans le quartier de l'Opéra, et qui est une fromagerie japonaise, enfin tenue par des Japonais, avec des fromages français, qui font comme ça depuis quelques années des accords entre autres saké, et c'est incroyable.
Donc,
incroyable.
Ça s'accorde avec les fromages. On parlait du foie gras tout à l'heure, ça peut s'accorder sur le sucré.
Sur le sucré, on a des sakés un peu liquoureux qui s'accordent très très bien avec les desserts. Personnellement, je trouve que ça s'accorde très bien avec les légumes aussi.
Ça tombe bien si tout le monde mange des légumes. Ça vient pas.
Et donc ça va être très bien, pas forcément avec la cuisine japonaise, mais aussi avec la cuisine française, surtout la nouvelle cuisine entre guillemets, où il y a peu de sauces, où les produits sont mis en avant. Et je trouve le saké parfois.
Oui, surtout que vous êtes à l'origine aussi une ligne d'importation, si j'ose dire, de grands chefs cuisiniers japonais qui arrivent en France et qui font de la cuisine française. Donc on imagine aussi qu'il y a ce goût-là, ces mariages-là, et on comprend mieux.
Oui, tout à fait. Déjà, on a commencé à faire du mariage avec des produits japonais de la cuisine française, avec mes différents chefs et les différents restaurants que j'ai eus. Et là, on continue avec le saké, où on amène les gens encore un peu plus loin.
Allez, on va parler d'une grande maison, des plus célèbres, des plus réputées, la maison d'Asai. Est-ce que vous référencez des sakés de la maison d'Asai?
Pas encore, mais ça va pas tarder.
Là, vous allez nous faire tirer les oreilles. Alors, Kaolu, racontez-nous un peu cette maison d'Asai, parce qu'un peu comme en France, il y a des grands noms. Alors, on parlait de Piper, de Charlotte Zig, de Moët, de Veuve Clicquot, de Salon. Salon, superbe champagne. Est-ce que, pareil, au Japon, il y a des grandes références, des grandes maisons? Et d'Asai, m'a-t-on dit, en fait partie.
Au Japon, en fait, il y a un peu plus de 1000 maisons de producteurs, mais la plupart des maisons sont des petits producteurs. Nous y sommes aussi, mais nous essayons grand quand même, un fabricant, le grand saké.
Qui n'en finit pas de monter.
Voilà. Et donc, Dasai, c'est une marque qui a été montée et qui a été établie par un actuel PDG, Sakurai Hiroshi, et qui a une idée complètement inédite, c'est-à-dire fabriquer uniquement le Jumai Daiginjo. Jumai Daiginjo, c'est le thème que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est en fait, c'est une classification au sommet de classification. Donc, on peut dire, ne fabriquons que l'équivalent de grand cru.
D'accord.
Dans notre chai. Et deuxième particularité, nous utilisons que une variété de riz qui est considérée la meilleure, qui s'appelle Yamada Nishiki. Bon, c'est un peu long.
Voilà, je donc, comme ça, je dirais à la maison du saké, donc je vais à Jumai. Je crois que ça veut dire pur.
Jumai Daiginjo, donc Jumai, ça veut dire pur, riz, c'est-à-dire un non-adjonction de l'alcool.
Ni d'alcool, ni de sucre, ni d'additifs ajoutés, ce qui fait que c'est aussi un alcool, je ne vais pas dire vertueux, mais qui ne monte pas à la tête, qui ne rend pas malade. Voilà, avec modération, bien évidemment.
Mais on a demain, mais on ne va jamais le mettre là.
Alors, où on peut, parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, car où on peut le trouver à Paris, pas forcément à la maison du saké, mais où
ça
on peut trouver.
Donc, bien sûr, certains des restaurants japonais, comme Okuda, ou à Kinugawa ou à ailleurs.
Ah, vous n'avez pas choisi les moins mauvais.
C'est eux qui les ont choisi.
Mais aussi à table française, comme Sandis Taïwan, Le Doyen. Donc,
Le Doyen.
Michel Hénon a commencé à s'intéresser aussi au saké. Et aussi dans un certain grand hôtel, comme l'hôtel Peninsula, le Shangri-La, donc l'Abeille, ils sont aussi présents, ils servent donc dans Saint 23.
On n'a plus le temps, on ira les déguster.
Shangri-La,
chez Le Doyen, Lino, Sandis Taïwan, etc. Et bientôt, à la maison du saké.
Voilà, on retrouvera tout.
De toute façon, il y a du dasai dans l'Ivan Saké, puisque c'est un assemblage.
Merci
donc on a fait le tour.
Infiniment à vous, Kaoru Ida, ambassadrice de la maison dasai en France, Yulin Li, fondateur de la maison du saké. On redonne donc l'adresse 11 rue Tiquetonne, dans le 2e arrondissement de Paris. Et vous voyez comme ça bouge sur le secteur du saké. Régis Camus, merci beaucoup d'être venu nous présenter Ivan Saké. Merci beaucoup à tous les trois. On rappelle, une dernière fois, vous consommez bien sûr tout ceci avec modération. On vous a donné le mode d'emploi, à vous de jouer. Allez,
comme
à
c'est
tout
une
suite.
Émission mode, vous dites jamais avec modération.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et nous parlions parfum de saké durant cette émission. On va continuer à parler parfum, mais parfum à mettre sur la peau, ce sera dans un instant. Mais tout d'abord, c'est le livre de la semaine. Emmanuel, une très belle maison à l'honneur.
La maison Moila, le Malché, dont on a souvent parlé sur ce plateau, qui, pour la première fois, se voit inscrite l'instant d'une monographie, la première monographie dédiée à Moila. Alors avant de parler Moila, je parle de la maison d'édition, c'est Cercle d'Art, une maison d'édition discrète, mais très célèbre et surtout qui a un vrai patrimoine. Elle est née en même temps que Picasso. Généralement, Moina travaille beaucoup sur le monde de l'art, mais il s'amuse aussi beaucoup à travailler, enfin s'amuse, ils prennent le temps de travailler aussi sur les maisons, j'allais dire, de sentiments, de sens et de sensibilité. Donc les maisons d'artisanat, c'est une maison d'édition qui remonte en puissance sous la houlette d'un directeur de collection qui s'appelle Aymeric Mantoux, vous en souvenez peut-être. Il faisait la revue de presse sur Goodlux, vous vous en souvenez sûrement. C'est vrai que là, ils ont une vraie dynamique retrouvée. Alors cet ouvrage, la monographie Moina, bien sûr, ça va retracer tout le parcours de ce maltier depuis 1849, avec, j'allais dire, un retour en force depuis quelques saisons. Et on découvre aussi une histoire du voyage, bien évidemment, de Paris, des Parisiennes. C'est très réussi pour trois raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, les beaux livres font de plus en plus appel à des vrais auteurs. Ici, ça se joue sur le regard. C'est le regard d'un photographe qui s'appelle Jérôme Brion, jeune photographe qui avait été primé par la Fondation Hermès. Vraiment un regard qui va rentrer dans les ateliers et qui va parfois prendre même quelques clichés à deux doigts de l'abstraction. Ensuite, l'auteur. L'auteur, c'est Clémence Boulouk, une écrivaine qui désormais vit aux États-Unis, qui a écrit beaucoup de romans, beaucoup ont eu du succès, et qui va justement raconter comme une vraie biographie, comme si Moina était un être vivant. On est parfois même à deux doigts au rive de la fiction, c'est très réussi. Et puis surtout, on est dans un livre d'art, ce qu'on appelle les livres-objets, avec un travail de papier. C'est un papier unique. Il a été créé essentiellement pour cet ouvrage-là. Il n'y en a pas deux pareils. Un format oblong, des jeux de maquettes avec ces pages à l'italienne, vous savez, ces pages qu'on retourne. Très, très, très bel objet. Au-delà même de la saga Moina, qui vaut la peine d'être vue et lue, il y a vraiment un objet qui a du sens, un objet de bibliophile. Beau travail sur la Cercle d'Art.
La monographie Moina, donc chez Cercle d'Art. Allez, je vais vous parler de la chronique parfum, c'est tout de suite.
BFM Business, Goodlux Paris, l'édition du week-end.
Et notre diffuseur de bien-être est arrivé, Lionel Paillès, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
C'est notre petit top 5 des parfums du mois et vos coups de cœur, vos coups de griffe. Et on commence par une obsession.
Alors l'obsession, c'est le cèdre. Le cèdre, c'est à la fois une très belle matière en parfumerie, en même temps, c'est un bois un peu passe-partout par rapport au patchouli, par exemple. Donc le cèdre, là, c'est la maison Bayredo dont on a beaucoup parlé, une maison qui était indépendante, qui vient d'être, enfin, qui a été vendue il y a quelques années à un des gros groupes d'aujourd'hui, mais la maison continue à être aussi créative, à conserver son parfumeur. Et là, c'est une ode au cèdre. Donc ça s'appelle Super Cédar. Donc ils jouent beaucoup avec les noms chez Bayredo.
Super Cédar, ça me fait penser plutôt à article aussi, ménager. Ouais,
c'est vrai. Ça peut faire penser ça. Alors le cèdre, ça sent quoi? Ça sent des petits côtés térébenthine, armoise, mine de crayon même. Ça fait penser à l'univers de l'écolier en fait, c'est le cèdre de Virginie. Donc là, c'est vraiment du tout cèdre, c'est-à-dire qu'on a un fond vétiver et une tête un peu hespéridée agrume, mais vraiment toute la place est laissée au cèdre.
Et ça marche.
Et ça marche très très bien, c'est vraiment très très beau, magnifique. Super cédar, ça sort bientôt, dans une semaine ou deux, je crois.
De Bayredo. Alors en revanche, vous avez été déçu par Calvin Klein.
Alors Calvin Klein, c'est une trois maisons. Il y a trois maisons qui sont complètement perdues dans la parfumerie. Il y a Kenzo, beaucoup. Je dirais Givenchy et Calvin Klein qui s'est vraiment... Alors, les grandes années Calvin Klein, c'était les années 80 et début des années 90. Il y avait eu vraiment des magnifiques choses comme Obsession, comme CK One. Et là, il nous rejoue le coup de CK One, sauf que 25 ans après. Donc CK One, c'était pas le parfum unisexe, c'était le parfum qu'un homme et une femme pouvaient partager. Là, ils nous refont exactement le même truc, mais en disant finalement c'est le parfum no genre. Donc là, c'est ni féminin ni masculin.
Mais ça marche
pas du tout.
C'est quoi pour les animaux?
Donc c'est ça pourrait. Mais c'est à l'arrivée, vous avez une
le concept est tellement tordu qu'ils sont perdus.
Ah ouais. Et même olfactivement, on a une espèce de soupe de parfum. Donc avec le nez s'arrête sur rien du tout. Donc ils annoncent du wasabi, de la violette, de la mandarine, des notes boisées. Mais finalement, on arrive à rien distinguer.
Ah bah c'est
et
sympa.
C'est vraiment donc ça s'appelle Sike 2 ou Sike 2. Je ne sais pas.
Très bien.
Dans sa voiture.
Bon, misons plutôt sur la révélation, alors, Lionel.
Alors, la révélation, ça, c'est vraiment une très, très jolie marque dont on a aussi beaucoup parlé, c'est Diptyque.
Oui.
Alors, Diptyque, ils ont ce talent et ce défaut, parfois, d'être très réguliers dans leur création. On finit par les oublier, parfois, puisqu'ils font toujours des belles choses.
Comme tous leurs flacons se ressemblent.
Et c'est jamais génial, extraordinaire, etc. Mais c'est jamais raté non plus. Donc voilà, on finit par l'oublier un petit peu cette maison. Et là, ils nous sortent. Donc c'est un parfumeur que j'aime énormément, qui s'appelle Olivier Pécheux et qui a travaillé. Donc ça s'appelle L'eau d'essence. Et l'idée, c'était de montrer que un parfum tout en fraîcheur pouvait être très cajoleur, rassurant. Souvent, on est soit dans des notes sensuelles et un peu enveloppantes et donc rassurantes, soit dans les notes fraîcheur et c'est un peu dynamisant. Là, il a essayé de montrer qu'on pouvait être frais enveloppant,
et
rassurant. Et c'est très, très joli. Vraiment très réussi.
Alors, ça s'appelle l'eau d'essence.
C'est vrai ce que dit Karine rapidement sur... C'est vrai que j'ai pas une vertu et une passion pour tous ces flaconnages qui partent dans tous les sens, mais à la force de faire toujours le même flacon, on oublie un peu et le nom du parfum et le jus qui l'accompagne. Et je suis sûr que ça leur joue tout de même des tours parce que il y a certainement ce parfum que je ne connais pas, mais ils ont une ou deux fragrances assez exceptionnelles.
Oui.
Mais elle passe à côté parce qu'il y a une espèce de ligne de fuite de ce flaconnage qui fait qu'on ne sait pas.
On les reconnaît, c'est sûr, mais voilà.
Mais on les reconnaît, mais on ne les définit pas.
Et alors, vous avez connu une vraie déflagration?
Oui, alors c'est la déflagration de cuir. Alors voilà une autre maison, Molinard, qui sort un cuir. Molinard, plus ancienne maison avec Guerlain de parfums françaises, installée à Grasse, qui était devenue un peu une espèce de vitrine, un paravent de la parfumerie un peu pour touristes.
C'est la parfum de Cara Touriste. C'est injuste d'ailleurs.
C'est injuste parce qu'ils avaient fait le grand parfum de Molinard, c'est Abanita, qui est vraiment, pour les spécialistes du parfum, un des plus grands parfums de l'histoire. Et puis, après, on avait un peu oublié ce que faisait... Et là, ils se disent, on va faire un cuir, donc hommage au tanneur, parce que il faut se rappeler que le métier de parfumeur était d'abord le métier de tanneur et de gantier. Comme on faisait du cuir, on tannait le cuir pour rendre l'odeur supportable. Donc les gantiers sont devenus parfumeurs et donc c'est un hommage à cette corporation grassoise. Et c'est vraiment très joli. Alors c'est un cuir extrêmement classique avec les notes cuir qu'on connaît. Donc beaucoup de notes bois, quelques notes oud dont on a parfois parlé ici. Donc c'est un parfum plutôt masculin. Mais vraiment très très joliment fait et c'est un peu le retour de Molinard donc
toujours voilà, en violet Molinard pour les reconnaître
toujours.
Et allez rapidement pour terminer une petite confirmation
Bottega Veneta, donc ça c'est aussi une je dirais que c'est en parfumerie depuis 5-6 ans c'est pratiquement la maison qui fait un sans faute. Ils ont sorti 5 ou 6 parfums.
Maisons de mode.
Ah oui, vraiment,
fois,
c'est.
On ne sait pas vraiment dans quel
c'est
mettre,
toujours réussi. Ils avaient sorti un premier masculin il y a 2 ans, qui s'appelait Bottega pour hommes. Là, ils sortent une déclinaison d'un féminin qu'ils avaient sorti il y a 2 ans, qui s'appelait Bottega Veneta, essence aromatique. Donc là, ils sortent la version masculine. C'est extrêmement joliment fait, donc c'est tout dans les purs, la simplicité, donc des plantes aromatiques. On est vraiment dans l'esprit des grands masculins des années 50-60. C'est extrêmement réussi, très élégant.
Étonnant parce que le flaconnage est très sobre, là où Bottega Veneta, dans leur mode, est beaucoup plus exubérant. C'est étonnant. Peut-être que c'est la fragrance qui est...
Le contre-pied.
Plus expansive, plus italienne.
Donc ça s'appelle Pour Hommes Essence Aromatique, pour les hommes de Bottega Veneta. Merci beaucoup Léonel Paillet, vous restez encore un petit peu avec nous, c'est l'agenda tout de suite.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Et très très rapidement, Emmanuel, on commence par une petite expo.
Exposition, alors exposition qui va avoir lieu, qui a commencé, hein, ça a commencé le 19 février, ça va avoir lieu jusqu'au 25 mars, le Marais. Rend hommage au photographe Maurice Renoma. On l'avait déjà reçu dans cette émission. Renoma, bien sûr, tout le monde le connaît pour son parcours dans les années 60, début des années 70 autour de la mode. Mais c'est vrai que depuis 23 ans, il fait de la photographie. Il est né dans le Marais, c'est un fils du Marais. Et le quartier lui rend hommage et rend hommage à son travail. Ça se passe dans plusieurs lieux, le Square du Temple, la mairie du 3e, le Ballon Rouge, qui est un petit bistrot à vin, la Galerie Rouen, la Galerie Photo 12, Artistique Réseau. Et chacun de ces lieux, c'est cet espace, va rendre hommage à cette vision du travail de Maurice Renoma. Un espace va rendre hommage à son travail sur la Chine, un autre à son travail sur l'argentique, un autre sur son travail sur le photonumérique, sur la couleur, sur le noir et blanc. C'est à la fois un joli hommage parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même un œil, ce monsieur Renoma, et surtout c'est une manière, peut-être le temps d'un week-end, de se balader dans le Marais de photo en photo. Et c'est vrai que c'est un gamin du Marais, ça se sent dans ses photos, il y a quand même cette petite gouaille chez Renoma sur certaines de ses photos. C'est c'est un monsieur assez sympathique.
Voilà,
et c'est quand même un bon photographe.
Renoma investit le Marais, donc jusque fin mars, vous nous le disiez. Et puis jusqu'au 19 mars, si vous passez par Aéroport de Paris, vous savez que c'est la Fashion Week parisienne qui débute. Eh bien, Aéroport de Paris aime votre style. Et là aussi, on parle de photos, puisque c'est Jonathan Pazziulo, pardon pour la prononciation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a shooté les voyageurs qui traversaient Roissy-Charles-de-Gaulle. Et il les a pris. Alors, il y a le style de la parisienne, de l'américaine, de l'italien, que sais-je encore. Il les a pris en photo. Donc, tous les styles, vraiment. Et on retrouve ces photos, bien sûr, dans l'aéroport. 27 personnalités. On les retrouve aussi à l'hôtel de ville. Tout ça, c'est pour répondre, pour rappeler quand même, il serait temps d'y penser, que tous les gens qui vont débarquer pour la Fashion Week parisienne, les mettent tout de suite dans l'ambiance, dire, bah oui, Paris est la capitale de la mode. Regardez, tous les gens ont du style. Et la mode aime Paris. Il y a même des petites vidéos qui sont diffusées à l'aéroport de Roissy qui présentent un petit peu les métiers de la mode et le savoir-faire de la mode. Il serait temps qu'ils fassent quelque chose. Heureusement qu'ils s'y mettent, pour mettre à l'honneur Paris, capitale de la mode. Ça s'appelle la mode aime Paris.
Et
ça, c'est pour le petit film.
Les autres, New York, Londres, Milan, bien sûr, poussent sérieusement sur le Fashion Week.
C'est ça. Donc voilà, il faut faire quelque chose. Donc mettons la mode à l'honneur. Belle initiative. Donc Aéroport de Paris aime votre style. C'est jusqu'au 19 mars si vous passez par là. Merci beaucoup Lionel Paillet.
Merci à vous.
On vous retrouve très bientôt pour d'autres fragrances envoûtantes grâce à vous. Quant à nous, Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Avec ravissement.
Et Good Luck, c'est pas tout à fait terminé. Restez encore un petit peu avec nous sur BFM Business. C'est le best-of de la semaine. À tout de suite.